la nature du changement d'époque que nous vivons, il n'est pas faux de dire qu'elle est, sur un certain nombre de points, comparable au passage paléolithique-néolithique. Vous avez une façon simple de le repérer. Quand vous prenez des mutations auxquelles nous sommes en permanence affrontés, moi, pour des raisons pédagogiques, j'utilise la sonorité du mot air en français pour dire ça correspond à trois grands changements d'air. Le changement d'air AIR, qui correspond à l'ensemble des défis écologiques. Le changement d'air AIRE, c'est-à-dire le bouleversement du rapport au territoire. Et le changement d'air accent grave RE, c'est-à-dire le changement d'époque historique. Le changement d'air sur le plan écologique, il nous amène à poser cette question radicale qui est qu'allons-nous faire de notre planète? Le changement d'air en termes d'époque historique, il conduit notamment au constat que derrière la révolution de l'information vient une autre révolution qui est encore plus importante, qui est la révolution du vivant. Et du vivant humain. C'est-à-dire que la possibilité que l'espèce humaine a de plus en plus d'intervenir sur le vivant humain lui-même, de le faire muter, et la question du clonage n'est qu'une partie de ce problème, qui ouvre des champs considérables sur le plan positif, par exemple, du côté thérapeutique, mais qui ouvre aussi des risques considérables sur le plan éthique et d'une automutation de l'espèce humaine qui peut être aussi sous une phase terrifiante. Eh bien, qu'est-ce que c'était que le passage du paléolithique au néolithique à l'époque? C'était la possibilité de passer de la soumission au vivant naturel à la transformation du vivant naturel, à travers l'agriculture notamment. Ben, la grande révolution du vivant qui commence à peine et qui met ses pieds dans les pas déjà beaucoup plus avancés de la révolution informationnelle, elle nous mène à cette possibilité d'intervenir sur le vivant humain lui-même, de transformer le vivant humain. Et là, à côté de la question radicale qu'allons-nous faire de notre planète, vous avez une autre question encore plus radicale qui devient: qu'allons-nous faire de notre espèce, de notre famille humaine? Et comme par ailleurs, les mutations considérables que toutes ces mutations entraînent, par exemple dans l'ordre de l'organisation des sociétés, notamment de l'ordre du travail, font que de plus en plus, on ne sera plus dans la question classique des sociétés du travail qui était « que faisons-nous dans la vie ?» qui est le sésame encore habituel du mode de reconnaissance sociale, mais deviendra de plus en plus la question « que faisons-nous de notre vie ?» Question éminemment plus passionnante, mais aussi beaucoup plus vertigineuse. Quand vous prenez cette troisième vague-là, et quand on dit qu'une partie de cette troisième vague, elle pose la question d'une mutation comparable au passage paléolithique, néolithique, eh bien, nous tombons sur une question qu'on connaît par ailleurs, mais qu'on ne traite pas pour de bon, en tout cas qu'on ne traite pas sur le plan sociétal, qui est dans quelle mesure la question de l'homo sapiens sapiens ne devient pas, pour le coup, une question sociétale, et même politique au sens le plus fort du terme. Comme aime à dire Edgar Morin, nous ne sommes pas sapiens sapiens, ça serait, nous sommes plutôt sapiens des minces. Et l'un des gros problèmes de l'humanité, et la plupart des autres questions que nous rencontrons sont en quelque sorte des dégâts collatéraux de ce problème fondamental, c'est le fait que nous avons une intelligence mentale extraordinairement développée, mais notre intelligence du cœur, notre intelligence émotionnelle, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas suivi le même chemin. Et pour reprendre ce que dit Arthur Koestler dans Génie et folie de l'homme, nous risquons d'avoir des comportements émotionnels qui n'ont pas fondamentalement changé depuis Cro-Magnon ou Néandertal, mais avec la différence que ce n'est pas la même chose d'avoir un gourdin ou d'avoir une arme nucléaire quand on a des rapports agressifs avec ses semblables. Et si nous prenons cette question-là dans sa radicalité, eh bien, ça veut dire que la question de l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, ce que les spiritualités orientales expriment traditionnellement dans la nécessaire articulation des trois intelligences, eh bien que cette question n'est plus simplement une question personnelle et privée, mais qu'elle devient une question éminemment collective. Et à ce moment-là, de la même façon que la première vague, comme alternative à la démesure, au mal-être, ouvrait la question de l'art de vivre et la question de l'être, que la seconde vague posait la question d'une sortie par le haut de la modernité et la question d'un dialogue de civilisation exigeant, la troisième vague, elle nous affronte à ce grand rendez-vous qu'est le rapport de l'humanité avec elle-même, de cette humanité qui risque la sortie de route. Ça n'est pas du tout faire du catastrophisme que de le dire, mais de cette humanité qui peut aussi, comme ça a été à plusieurs le cas dans l'histoire, utiliser ces défis colossaux comme une source de transformation et d'avancée qualitative dans sa propre histoire. Alors, on l'a connu sur le plan historique dans des temps de Renaissance, par exemple, qui, quand on les regarde de près, c'est-à-dire pas simplement dans la reconfiguration souvent idéalisée, étaient des temps extraordinairement hybrides et déchirés, hein, et donc assez comparables aux périodes historiques qu'on vit. Mais c'est aussi ce qu'on a vécu dans l'histoire même de l'évolution. La mutation du rameau hominien, par exemple, qui, à certains égards, était dans une situation extraordinairement défavorable par rapport à d'autres rameaux, parce qu'en termes de rapport de force, il courait moins vite, il nageait pas, il volait pas, il était moins fort, etc., etc. Et paradoxalement, l'hominisation, elle a bénéficié de cette vulnérabilité du rameau hominien, et notamment l'émergence de la conscience, elle naît de l'opportunité de cette vulnérabilité. Ben, d'une certaine façon, nous sommes confrontés à un rendez-vous de même nature, mais qui cette fois n'est pas dans l'ordre biologique de l'hominisation, mais dans l'ordre éminemment culturel et politique de l'humanisation. Comment grandir en humanité ? C'est le thème de ces rencontres internationales que nous organisons depuis maintenant une dizaine d'années et qui s'appelle « Dialogue en humanité ». Et le pari de « Dialogue en humanité », c'est de dire toutes les grandes questions auxquelles sont confrontées l'humanité, y compris les questions écologiques, sont pour l'essentiel des dégâts collatéraux de cette difficulté qu'a l'humanité à vivre sa propre condition. Mais cette question-là, elle n'est jamais travaillée sur un plan collectif. On fait des tas de conférences internationales et on a raison de les faire sur la question de l'eau, sur la question de la faim, sur la question de la santé, sur la question du climat, etc. Mais d'une certaine façon, on ne pose jamais la question humaine comme étant une question éminemment politique. Et soit on la pose pas, soit on l'exprime de façon idéaliste à travers les formules fameuses du type « on va remettre l'humain au centre ». En général, on dit ça en fin de réunion et on se sépare en gros en se disant « bah oui, si on mettait l'humain au centre, ça serait la solution des problèmes ». Mais en réalité, si on y réfléchit deux minutes, il y a quand même une légère question, parce que remettre au centre une espèce qui, de la Saint-Barthélemy au Rwanda, en passant par Auschwitz et Hiroshima, a ce degré de maltraitance à son propre égard et à l'égard des autres espèces, ne va pas de soi. Donc, s'il s'agit de remettre de l'humain au centre, c'est au minimum du meilleur de l'humanité et non pas du pire de l'inhumanité. Donc, ça veut dire que la question fondamentale du rapport de l'humanité à elle-même et la présence au cœur de l'humanité de sa propre barbarie, que la question de la barbarie n'est pas une question extérieure, mais c'est une question intérieure. Et ça, si on y réfléchit, ça change complètement la donne, y compris sur le plan des enjeux politiques et géopolitiques. Parce que quel a été le mode traditionnel de gouvernance des sociétés ? C'est pour l'essentiel d'avoir construit des espaces pacifiés, des espaces civilisés, mais par décharge de l'agressivité sur l'extérieur. La figure du barbare, la figure de l'étranger, la figure de l'infidèle ont été au cœur des processus de civilisation et de pacification. Seulement, quand on prend le problème à l'échelle mondiale, évidemment, là, il y a un léger problème, c'est que nous n'avons pas d'extraterrestres sous la main, ou alors simplement sur un mode fantasmatique, pour nous rendre en quelque sorte le service de jouer le rôle des barbares extérieurs. Donc nous sommes bien confrontés à un problème de barbarie, mais ce problème de barbarie est un problème de barbarie intérieure. Et l'Europe est bien placée pour avoir payé le prix lourd d'avoir découvert au cœur de grandes civilisations européennes la présence de la barbarie intérieure. Donc la grande... Ça, c'est joli. Les forces de vie sont là, vous voyez. Il y a toujours... ça que... Et... Mais il faut rester. Et je vais terminer justement sur ces points-là. Si la grande affaire, c'est le rapport de l'humanité à elle-même et le rapport de l'humanité à la nature est directement dépendant de ce point. Si nous faisons la guerre à la nature, c'est parce que nous nous faisons la guerre à nous-mêmes. Et quand je dis à nous-mêmes, c'est non seulement dans le rapport à autrui, mais c'est aussi le problème de notre guerre intérieure. L'un des points communs à toutes les grandes traditions de sagesse et de spiritualité, c'est de lier la qualité relationnelle de notre rapport à autrui à la qualité de notre rapport à nous-mêmes. C'est le fameux « aime ton prochain comme toi-même », mais vous le trouvez dans toutes les grandes traditions spirituelles. Et donc, si on considère que la question de l'art de la paix est une question fondamentale pour l'humanité, le politique lui-même, dans toutes ses dimensions, y retrouve la question de la sagesse, notre fameuse histoire de Sapiens Sapiens. Parce que nous disent toutes les sagesses du monde avec leur diversité, mais elles ont comme point commun de nous dire, attention, la question de la barbarie est une vraie question, mais ce n'est pas une question.